peut-être même va heurter vos convictions profondes. Mais voilà, je vais le dire. Pour commencer, je voudrais rappeler que la Bible est parsemée d'histoires de femmes particulièrement douées et qui ont eu un rôle particulier à jouer. Alors je vais en rappeler quelques-uns. Normalement, ça marche. Quelques femmes bibliques célèbres. Alors, il y en a énormément. J'en ai choisi 3 pour le Premier Testament, 3 pour le Second Testament. Je commence par Déborah, peut-être la femme de l'Ancien Testament la plus connue. Cette femme était prophétesse. C'est-à-dire Dieu lui avait accordé un don particulier de pouvoir recevoir et transmettre les paroles particulières de Dieu à son époque. Second point, c'était une femme qui était juge en Israël. C'est-à-dire que c'était une femme politique. C'était le chef du pays. Je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Mais elle avait autorité sur le peuple tout entier, hommes et femmes. Donc elle a eu une influence politique, sociale. On voit dans son histoire qu'elle avait aussi une dimension internationale, pas que dans le petit pays d'Israël, mais une dimension internationale. Et retenons surtout qu'elle a eu une influence spirituelle sur tout son peuple. Deuxième exemple que j'ai choisi, c'est le contraire. C'est pas une femme de grande envergure, etc. C'est la servante captive de Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée de Syrie, donc l'ennemi du peuple d'Israël. Et butin de guerre, cette jeune femme était capturée comme esclave et sa vie était donc réduite à servir la femme de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette jeune femme ? C'est que dans sa situation terrible, elle a malgré tout su parler de l'amour de Dieu, de son Dieu. Son ravisseur, Naaman, le chef de l'armée syrienne, était malade. Elle a pu partager sa foi en Dieu et le fait que Dieu était capable de guérir même l'ennemi de la nation. Et c'est ce qu'a fait après le prophète Élisée. Troisième exemple. Là, c'est plus une personne, c'est un personnage. C'est la femme vertueuse citée dans Proverbe 31. Vous connaissez toutes ce magnifique chapitre de Proverbe 31. Vous resituez Proverbe, hein, c'est l'enseignement de la sagesse par excellence. C'est bizarre que ça termine comme ça. Donc cette femme vertueuse donnée en exemple, qu'est-ce qu'elle fait ? Rapidement, elle fait de l'humanitaire. C'est une femme très active dans la vie de sa cité. Son mari la respecte et est fier d'elle. Il ne la brime pas, mais il la laisse exprimer dans ses activités, sa liberté. Autre point à remarquer, ce chapitre est écrit par un homme. Lémuel, roi, hein, c'est comme ça que c'est écrit. Mais c'est écrit sous la dictée de sa mère. Voici les enseignements que la mère de Lémuel lui a apportés. Donc c'est quand même un truc assez puissant là. Dans les Écritures, Dieu laisse à une femme, la mère du roi, c'est pas n'importe qui, le soin d'écrire les qualités d'une femme. Ce n'est pas laissé à un homme, même si c'est lui qui le retranscrit. Peut-être qu'un homme l'aurait fait correctement, mais c'est encore mieux si c'est une femme qui le fait. Alors cette femme de Proverbe 31 ne vit pas dans l'ombre de son mari, elle fait sa vie dans les affaires de la cité. C'est un exemple fort dans l'Ancien Testament. Dans l'histoire de l'Église, avec un grand E, ben, qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc toute la question, c'est la suivante. Que faire d'une femme vertueuse dans l'Église ? Si une femme réussit, si une femme a de la prestance, si elle est féminine, si elle est spirituelle, qu'est-ce qu'on en fait dans l'Église ? Alors je comprends que certains messieurs peuvent se sentir menacés, avoir peur. On l'a vu dans l'histoire de l'Église, on peut brimer ce genre de personnes. Alors je passe à mon autre exemple maintenant dans la Seconde Alliance, dans le Nouveau Testament. Alors là encore, c'est difficile de faire un choix, il y a tant d'exemples. Je choisis trois personnes. Dans Romains 16, il est parlé d'une femme qui s'appelait Phobée. On ne sait pas grand-chose d'elle. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle avait le titre de diacre. Et en dehors de Jésus, dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule personne identifiée avec ce titre. On parle de diacre, etc., mais on n'a jamais leur nom. Là, on l'a, pour Phobé. Autre exemple, dans Jean 4, la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire, au bord du puits, discute avec Jésus, etc. Qu'est-ce qui se passe après ? Cette femme, elle rentre dans son village. Tout le village se convertit. C'est dingue, ça. Dans Acte 8, il est parlé des péripéties de Philippe, évangéliste et enseignant reconnu. Et dans Acte 20, il est parlé de ses quatre filles. Donc on apprend que Philippe était marié, puisqu'il avait quatre filles. Et c'était des prophétesses reconnues, capables de transmettre, d'enseigner les messages de la part de Dieu. Alors, tant d'exemples. Pour finir, j'ai cité un couple qu'on connaît bien dans la Bible, parce qu'on le voit tout au long des étapes de la vie de Paul, ils sont toujours là. Priscille et Aquilas. Leur caractéristique à ce couple, c'est qu'ils avaient un don particulier d'enseignement, autant l'un que l'autre. On sait que c'est eux qui ont accueilli Apollos quand il s'est converti et qui l'ont enseigné. Le fait remarquable, c'est que ce couple est souvent cité en commençant par l'épouse, Priscille ou Prisca, son diminutif. Alors, ceci étant fait, nous allons passer à la lecture qui pique. Je souhaite donc là on prend 2 Timothée, je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et discrétion, se parent, non pas de tresses, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. En effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite, et c'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle demeure dans la foi, l'amour et la consécration, avec pondération. Je rappelle que le jet de tomates n'est pas autorisé. Et les amis, ça fait partie de notre Bible, Alors, soit on retire les pages qui ne nous plaisent pas, soit on essaie de comprendre qu'est-ce que Paul veut dire. Le moyen de comprendre ce qu'un texte difficile veut dire, c'est de regarder son contexte. Vous connaissez l'adage, texte sans contexte n'est qu'un prétexte. C'est pas de moi. Alors, le contexte, c'est quoi ? C'est le contexte de l'église d'Éphèse. Je ne vais pas vous faire. J'ai pas le temps. De vous parler de toute l'église d'Éphèse, de sa création, de ce qui s'est passé, etc. Soit vous connaissez, soit ça vous fera un devoir de vacances. Paul était plusieurs années à Éphèse, il a travaillé à la naissance et à la croissance de cette église. Vous connaissez tous la lettre aux Éphésiens, si vous ne la connaissez pas, lisez-la, devoir de vacances numéro 2. Et on voit dans cette église, dans cette lettre à l'église d'Éphésiens, la grande maturité que cette communauté d'Asie mineure avait. Bon, Paul est reparti, comme il disait toujours, bon, il est resté 2 ans, et puis après les choses se sont gâtées. Pourquoi ? Parce que c'était comme ça à l'époque. Il y avait des personnes mal intentionnées qui prenaient pour cible les églises et tentaient de les vider de leur sens et de vider les porte-monnaies. C'est pas récent, ça a toujours existé. Donc, dans le début de la lettre, Paul rappelle à Timothée pourquoi Timothée est envoyé en mission spéciale à Éphèse. Pour redresser les faux enseignements et remettre de l'ordre dans l'Église, dans les conséquences pratiques que cette Église. On le lit dans le premier chapitre. Je t'ai encouragé, demeure à Éphèse, empêche ceux qui propagent les mauvais enseignements de le faire, etc. Donc Paul a une mission particulièrement compliquée. Timothée a une mission particulièrement compliquée. Souvent, dans les images un peu qu'on a en tête, on s'imagine que Timothée, c'était le petit gars frêle là, qui ne savait pas trop quoi faire. Enfin, c'est quand même lui qu'on envoie pour sauver l'église d'Éphèse, quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, les faux enseignements ont eu une conséquence désastreuse, non seulement de mettre le cerveau à l'envers de tout le monde, ils ont aussi fait imploser l'église à Éphèse. cette riche, brillante église d'Éphèse, elle a complètement implosé. On le voit très bien, c'est que dans la suite, Paul va dire à Timothée, il faut que tu renommes des responsables, des hommes clés, des épiscopes, des diacres, des femmes, etc. Il lui donne toutes les... Vous connaissez, on va le voir juste après. Et donc, deux points particuliers ressortent de la lettre, c'est qu'il doit stopper la crise et il doit rétablir l'Église, restructurer l'Église en mettant en place des nouveaux responsables. Donc on comprend qu'il y a eu un énorme remue-ménage dans cette Église à cause des faux discours. Alors vous connaissez ce passage, je les ai réimprimés, mais très rapidement. On a lu 1 Timothée 2 et maintenant on est à 1 Timothée 3, c'est la suite. Paul ne s'est pas arrêté au chapitre 2 et puis le lendemain il a repris au chapitre 3, non. C'est la suite. Il dit ce qu'on vient de lire et puis il dit juste après, maintenant voilà ce que tu dois faire, tu dois renommer des responsables, des hommes clés. Alors ce n'est pas le sujet de ce matin de voir les caractéristiques, vous l'avez bien compris. Ce qu'on retient c'est qu'il y avait différents types d'hommes clés, de femmes clés, vous voyez dans le passage. Il dit, il y a des épiscopes, il y a des ministres, il y a des femmes, les ministres, voilà. Il donne des catégories pour retrouver des personnes clés dans l'Église. Bon, c'est intéressant de voir que, pour ce qui nous intéresse ce matin, c'est que la situation était tellement grave que donc il fallait renommer des personnes. Ça avait été vraiment violent. Alors on trouve aussi au milieu de la lettre un autre indice, toujours pour trouver le contexte. C'est dans le chapitre 4. Un indice intéressant qui va peut-être nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'était ces faux discours. On ne sait pas grand-chose, mais une chose que Paul dit, les faux discours, c'était qu'il ne fallait pas se marier. Et être marié, ce n'était pas bien. Et les colporteurs des mauvais enseignements, ils avaient mis l'Église en dessous en prétendant que le fait d'être marié, c'était spirituellement une position bien supérieure. Le fait de ne pas être marié, c'était une position bien supérieure à la position de quelqu'un de marié. Et donc ce faux discours avait fait naître dans l'esprit des femmes célibataires et des veuves particulièrement, et bien ça avait tout chamboulé. Et vous imaginez, tout d'un coup, la fausse supériorité là qui sort. Alors il y a un mot quand on se sent trop supérieur par rapport aux autres. Vous connaissez, ça commence par un « o ». Elle se croyait donc bien plus spirituelle que les croyants et les croyantes mariées. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre qu'un truc pareil, ça mette tout par terre. Eh bien oui, ça montre la fragilité des communautés. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi les responsables de l'Église n'ont pas tenu le coup. En tout cas, il faut les renommer. C'est bien qu'ils ont disparu. Et donc voilà pourquoi Paul insiste auprès de Timothée, pour qu'il choisisse de nouveaux responsables. Et voilà pourquoi il donne autant de critères très précis pour les choisir à nouveau. Alors ça, c'était le contexte. Alors je vous propose maintenant de reprendre notre texte, morceau par morceau, et de voir des points très pratiques. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. De même aussi les femmes, vêtues d'une manière décente, etc. Paul, la première chose qu'il veut rétablir et qu'il dit à Timothée de rétablir dans la vie de la communauté, c'est la piété. C'est le but de l'Église. C'est que chaque homme, chaque femme soit dans la piété. Ça concerne les hommes et les femmes, bien entendu. Alors à l'époque, ils avaient l'habitude, quand ils parlaient de choses pratiques, de séparer les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les hommes libres, les esclaves, les enfants, etc. Donc on voit pourquoi Paul fait deux éléments. Mais si on lit le texte un peu vite, on risque de passer à côté des mots. Aux hommes, là j'imagine là tous vous focalisez sur les tenues indécentes ou décentes, le maquillage et les boucles d'oreilles en or. Mais regardons le texte, il y a tous les mots là. Pour les messieurs, de quoi s'agit-il? Pas de colère, pas de discussion. Pas de polémique, pas de dispute, pas de râlerie. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces comportements. Aux femmes, Paul dit, mais recherchez la beauté intérieure plutôt que extérieure, car Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, hein, comme nous a dit Philippe. Alors faut-il déduire de cette distinction que des clichés, comme quoi tous les hommes sont des sanguins querelleurs ou des contestataires, et toutes les femmes sont des coquettes futiles ? Pas forcément. Je crois que de tout temps et en tout lieu, il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par les disputes et les querelles. Et en tout temps et en tout lieu, il n'y a pas que les femmes qui sont intéressées par les choses futiles. Bon, certaines vont montrer leurs bijoux, leurs coiffures, leurs nouvelles toilettes. Certains abordent leur belle voiture, leur plaquette de chocolat, leur monde dernier cri. La relation avec Dieu nous amène tous à chercher un cœur pur, apaisé, tourné vers l'essentiel. Hein, c'est ça quand il dit « en élevant des mains pures ». Quand Paul invite les femmes à se coiffer d'œuvres bonnes, à persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté, à vivre dans la sobriété, nul doute que les hommes sont visés aussi. Alors, déjà, ces deux premières phrases. Comment va ta vie de prière ? Comment va ta piété ? Et est-ce qu'elle est en cohérence avec ta vie personnelle ? C'est ça que Paul dit à Timothée. Il faut remettre les fondamentaux. La piété personnelle et la cohérence avec la vie quotidienne. Alors on passe à la suite. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. Ça a le mérite d'être clair. Alors, je ne sais pas si vous voyez au moins un point positif là-dedans. Je vais vous en donner un. Elle a le droit de s'instruire, exactement. Et ça, c'était révolutionnaire pour l'époque. Voilà, la femme, selon Paul, a le droit de s'instruire. Voilà, c'est des conditions un petit peu spartiates. Hein, bon, on n'était pas en Grèce, mais en Asie mineure. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens, Paul dit que les femmes ont le droit de prier et de prophétiser en public, c'est-à-dire exhorter, témoigner, transmettre une parole de Dieu. Donc le silence imposé à Éphèse pour les femmes reste une énigme si on l'entend dans un sens global. Soit Paul a besoin de prendre des vacances, parce qu'il se contredit, soit il faut creuser un peu plus et comprendre pourquoi il dit cela aux femmes à Éphèse. Alors, vous imaginez que je ne vais pas résoudre la question ce matin, parce que ça fait 2000 ans qu'elle est posée. Je voudrais juste prendre un exemple donné par Alfred Kuhn. Alors, je ne sais pas si on dit Kuhn ou Kuhn, je crois qu'on dit les deux. C'était, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un homme des milieux évangéliques frère large. Frère, en tout cas, je ne sais pas si c'était large. Et c'était un théologien et un écrivain de grand renom dans les milieux francophones et au-delà. C'est un homme qui est décédé à 97 ans le 6 avril dernier. Si vous tombez sur un livre de lui pendant l'été, lisez-le. Ils sont tous bons. Et voilà, il prenait cette image. L'Église est comme un orgue dont on a bouché la moitié des tuyaux. Malgré cela, Dieu, plus doué que le plus prestigieux organiste, Dieu a quand même pu faire retentir dans ce monde la musique de son amour. Mais quelle différence si tous les dons qu'il a donnés à son Église pourraient être mis en valeur. Alors, il y a grosso modo deux grands types d'interprétations pour ce passage. Quand on regarde tout ce qui a été écrit hein, par les théologiens, les exégètes, les commentateurs. Bon, donc il y a deux interprétations. La première, c'est que cette interdiction formulée par Paul, elle serait une interdiction universelle et permanente. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça s'appliquerait à toutes les églises en tout temps et en tout lieu, à Éphèse dans les années 50-60 et jusqu'à la fin des temps. Donc c'est une interprétation qu'on pourrait qualifier de littérale, fondamentaliste. Et vous avez compris que cette interprétation serait en totale discordance avec les exemples que la Bible nous donne sur la place des femmes. Mais c'est une interprétation, et elle est fondée. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir, vous allez trouver les deux interprétations. Suivant les sites que vous avez l'habitude de regarder, vous allez trouver plutôt l'une ou plutôt l'autre. La deuxième interprétation, elle est tout aussi sérieuse. Elle n'est pas récente non plus. Et comme nous l'avons vu à Corinthe, il y a des cas particuliers, des situations exceptionnelles où des mesures exceptionnelles doivent être prises. Je prends un exemple. En France, malheureusement, on a été touché à plusieurs reprises par les attentats. Notre gouvernement a pris des mesures particulières. On a appelé ça l'état d'urgence, etc. Et ça avait une nécessité pour essayer de juguler la période. Mais normalement, lorsque la paix sera revenue, eh bien, on arrêtera les mesures exceptionnelles et on reviendra aux mesures plus nominales, plus ordinaires. L'église d'Éphèse a subi les attaques des colporteurs de faux enseignements. La mission de Timothée est de gérer la crise et Paul lui donne des commandements, des ordonnances particulières, des prescriptions sévères et musclées pour enrayer la situation et mettre fin à la crise. Paul prescrit donc d'arrêter la propagation des fausses idées. Qui c'est qui propageait ça? Il se trouve que c'était les veuves, les femmes. Donc on comprend tout de suite l'interdiction. La deuxième chose, c'est que Paul dit qu'il faut rétablir la dignité du mariage, parce que ça a été attaqué. Et le mariage, vous vous rappelez, c'est quand même une institution de Dieu. Et être marié, c'est quelque chose de valable. Et spirituellement, c'est pas trop mal non plus. Et alors pour ça, je vais développer rapidement, mais on voit dans l'épître à Timothée que Paul va préciser deux choses particulières sur ce sujet. La première, c'est que il dit les responsables d'église, dans ce cas, il faut tous les choisir mariés. On l'a lu, les épiscopes doivent être mariés avec une seule femme et d'avoir des enfants, les diacres, pareil. Alors si on réfléchit un peu là-dessus, on se dit, tiens, mais c'est bizarre, parce que Paul, qui était un célibataire convaincu, il dit, tiens, il faut que les responsables d'église doivent être que des gens mariés. Ça serait absurde. Et imaginez, on a Paul dans notre église, il est célibataire, c'est Paul, et on ne pourrait pas le choisir comme responsable d'église parce qu'il n'était pas marié. Waouh ! Donc, rétablir le mariage. La deuxième chose qu'on voit, c'est que dans le chapitre 5, Paul prend le temps d'expliquer à Timothée comment il doit gérer la crise qui a été faite avec les veuves. Donc, grosso modo, pour schématiser, il dit, les veuves âgées, eh bien, c'est à leur famille de les prendre en charge, et les veuves jeunes, si elles ont la possibilité, elles peuvent se remarier et avoir des enfants. Il restitue la dignité du mariage. Alors Paul ne dit jamais que le mariage c'est mieux que le célibat, ou que le célibat est mieux que le mariage. Il dit que c'est différent. Et on sait tous qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. J'avais un ami, André, qui disait, c'est un peu d'humour là, pour détendre l'atmosphère, il disait, si tu te maries, tu auras des problèmes. Si tu te maries pas, tu auras des problèmes. Dans les deux cas, tu auras des problèmes, mais ce seront des problèmes différents. Alors, on termine avec notre passage. En effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été trompé, mais la femme, etc. Alors, si on lit ce passage trop vite, et sans le contexte qu'on vient de parcourir rapidement, on a l'impression que Ève perd des points par rapport à Adam. Alors, Adam a été créé le premier, pof, Ève, un point en moins. La femme a été séduite, pof, Ève, deux points en moins. La femme qui n'enfante pas perdra le salut, pof, trois points en moins. Et heureusement, il y a le stage de récupération de points. Si la femme enfante, elle sera sauvée. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le sens de ce passage. Qui ici croient que le salut des femmes provient du fait d'enfanter? Personne. Le salut des femmes, comme celui des hommes, provient du don gratuit de Jésus. Le salut des femmes, c'est la croix du Christ. C'est rien d'autre. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que Paul se lance dans une comparaison un petit peu hasardeuse, en tout cas très difficile à comprendre, mais vous allez voir. Il fait une comparaison entre les femmes à Éphèse et Ève dans la Genèse. Vous connaissez l'histoire, hein ? De même que Ève a été séduite, de même ces femmes, ces veuves, ont été séduites par les faux docteurs. Donc on comprend pourquoi, hein, je le répète, il dit, dans ces conditions, et pour le moment à Éphèse, les femmes ne doivent plus enseigner. Et toujours pour casser cette fausse doctrine, là maintenant pour rehausser la dignité du mariage, il va dire, elle sera sauvée en devenant mère. Paul dit, la femme qui enfante et qui est mariée. En gros, hein, enfin, vous le savez, Ève est devenue mère. Elle a enfanté, et c'est grâce à cela, dans sa descendance, que le Christ est venu sur la terre. C'est par la descendance d'Ève que le Christ est né. Alors c'est un peu compliqué, hein, c'est vrai, Paul, des fois, on aimerait bien l'avoir à côté pour lui dire, mais tu pourrais nous le réexpliquer un peu mieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça ne veut pas dire que les femmes doivent se taire parce qu'elles ont été créées en second et qu'elles ont été séduites, non. On l'a vu dans les Corinthiens, Paul considère qu'il y a une égale valeur et réciprocité entre hommes et femmes. Être créé en premier ou en second, ce n'est pas un signe d'importance. Paul dira, la femme a été tirée de l'homme et l'homme né de la femme, l'un ne va pas sans l'autre. L'autre idée à réfuter, c'est que Ève aurait été la première à transgresser le commandement de Dieu. C'est vraiment par elle que tous les problèmes sont arrivés. Alors, il faut regarder les autres textes. Dans Romains, Paul dit que c'est Adam qui a fait entrer la mort dans le monde. Dans Romains, dans l'Épître aux Romains, il ne parle pas d'Ève. Dans 1 Corinthiens, il dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Paul ne dit pas que c'est la faute de lui ou d'elle. Non, on a tous compris, c'était la faute des deux. Hein, c'est l'humanité tout entière. Mais Paul, il veut soulever un problème. Il veut rétablir quelque chose. Il veut rétablir la dignité, à la fois des femmes et à la fois des hommes. On comprend que le salut est venu sous la forme d'un enfant, le Christ, né d'une femme. Et là, Paul réhabilite le genre féminin. Et puis il dit, et le salut est venu par un homme qui a remplacé Adam, le Christ, et Paul réhabilite le genre masculin. C'est un encouragement extraordinaire. Alors, que peut-on en conclure? Mais déjà, est-ce qu'une femme pourrait enseigner? Ben oui. Et concrètement, dans toutes les églises, c'est ce qui se passe. Nous avons des monitrices d'école du dimanche qui enseignent les enfants, les ados. Et tout d'un coup, quand le garçon qui est à l'école du dimanche depuis qu'il est tout petit, il arrive à 17 ans et demi, la monitrice peut l'enseigner, et pof, il a 18 ans, et là la monitrice ne peut plus l'enseigner. Bon, pourquoi pas ? Nulle part ailleurs, on lit dans le Nouveau Testament de telles restrictions, à part à Éphèse. Dans l'épître de Tite, Tite est envoyé aussi en mission spéciale à Chypre parce qu'il y avait eu du désordre dans les églises. Et on voit que dans cet épître, il dit des choses un peu similaires, mais il dit des choses différentes. À Chypre, Paul dit à Tite que les femmes ont le droit d'enseigner et qu'en plus, il recommande que ce soit les femmes qui enseignent dans certaines situations particulières. Donc on voit que les exigences de Paul à Éphèse ne sont pas forcément universelles. Mais c'est une mesure d'urgence pour juguler la crise. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit de manière ordinaire dans tout le reste du Nouveau Testament et de la Bible. Alors prenons quelques minutes, puis je vais terminer, rassurez-vous. Que se passe-t-il si les femmes ne prennent pas leur place ? Bon, je vous rappelle l'exemple d'Alfred Kuhn, hein, un orgue dont la moitié des tuyaux sont bouchés. Ça ne doit pas être très facile de faire sortir de la musique. Imaginez un orchestre dans lequel il n'y a que les violons qui peuvent jouer. Toutes les flûtes, les hautbois, les bassons, etc. sont bouchés. Ça va être un peu monotone. Je vais prendre un autre exemple un petit peu plus secouant. Dans notre société, en ce moment, enfin depuis quelques temps, il y a le débat sur le fait qu'un enfant puisse être élevé que par des hommes ou que par des femmes. Et dans l'Église, on laisserait la place qu'à un côté. Vous voyez le problème, la contradiction ? Les femmes ont leur mot à dire et leur place pour la construction de l'Église. Paul dit aux Thessaloniciens, « J'ai été pour vous comme un père, j'ai été pour vous comme une mère. » Bon, c'est bien, Paul, de tenir les deux rôles, mais est-ce que tu es qualifié pour les deux ? De tout temps, nous avons eu besoin dans l'Église de mères spirituelles. Et par chance, nous en avons. C'est une dimension importante. Alors certains diront, « Oui, mais... les femmes, c'est bien qu'elles enseignent d'autres femmes. » Alors c'est vrai que c'est important des temps comme le week-end dernier avec Madame Dufour, c'est important des temps comme le week-end de 4 jours au mois de novembre qui s'appelle Cœur de femme, je vous encourage à y aller. Mais ce n'est pas forcément que les femmes qui ont besoin d'être enseignées par les femmes, les hommes aussi, je vais peut-être vous choquer, mais prenons un proverbe. Proverbe 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce, une parure pour ton cou. Waouh ! Même un fils a besoin des deux dimensions. Alors, je sais que c'est particulièrement difficile à entendre ce genre de verset pour vous, les jeunes, les ados. C'est quand même un conseil rempli de sagesse. Va parler à ton père, à ta mère de ce que tu vis. Écoute ce qu'ils ont à te dire. Bon, les jeunes, en général, pensent tout savoir. Alors, des fois, il y a des situations de vie où c'est compliqué d'aller parler à son père ou à sa mère parce qu'ils ne sont plus là, ou parce que la relation est coupée, ou parce que... bon. Mais dans l'Église, tu trouveras un père spirituel, une mère spirituelle à qui tu peux demander conseil. Et tu as besoin des deux enseignements. Et l'image du roi Lemuel, qui va même jusqu'à retransmettre l'enseignement qu'il a reçu d'une femme, sa mère. Ça nous montre la dimension capitale de la mère spirituelle, la dimension prophétique que seules les mères peuvent apporter. Si les mères ne prennent pas leur place, les pères auront échoué d'être des pères. L'Église a la responsabilité spirituelle de voir des femmes vertueuses se lever, car c'est essentiel pour avoir les deux dimensions. Alors comprenez-moi bien, des femmes vertueuses, il y en a beaucoup dans l'Église. Je ne vais pas faire comme les trucs qu'on voit sur Internet où vous êtes toutes des femmes vertueuses, mais... hein, mais il y en a beaucoup. Et le rôle de mère spirituelle est déjà en marche dans notre communauté. Il faut le soutenir, le faire progresser, au même titre que le rôle de père spirituel. En termes de soins pastoraux, il y a des domaines où les hommes sont nuls, et que seules les femmes pourront apporter ce qu'il faut. Donc on a vraiment besoin de mères spirituelles, de femmes vertueuses. L'Église n'est pas une famille monoparentale. Il faut des mères spirituelles et des pères spirituels. Ce n'est pas un plus. C'est indispensable pour que l'Église puisse vivre ce qu'elle est appelée à vivre. Et puis c'est une dimension prophétique par rapport à tout ce qui se passe dans notre société. Alors j'arrive à la fin. Et je vais conclure avec... un texte de toujours Alfred Kuhn. Alors s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous envoyer, il a fait tout un article très intéressant sur le sujet. Dans la société du 1er siècle, un fossé profond séparait les Juifs des Grecs. Mais dans la société prophétique de l'Église, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, plus de distinction. Un fossé encore plus profond séparait les esclaves des hommes libres. Mais dans l'Église, il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Pourtant, ce fossé a subsisté, même dans l'Église, jusqu'au XVIIIe siècle et par endroits jusqu'au XIXe siècle. Dans la société, l'accès aux diverses fonctions qui étaient régies jusqu'au milieu du XXe siècle par la distinction homme-femme. Dans l'Église, Paul nous dit, il n'y a plus ni homme ni femme, plus de distinction. Mais cette parole n'y a guère trouvé application. Peut-être le moment serait-il venu de repenser ce que ce verset a à nous dire aujourd'hui. Voilà ce que a écrit Alfred Kuhn. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment entrer dans ta dimension. Merci parce que nous savons que c'est toi le Christ qui vient sauver les hommes, les femmes que nous sommes. C'est toi qui viens sauver les enfants, garçons et filles. Te remercions Jésus parce que nous comprenons que au travers des commandements sévères de Paul, l'objectif c'est de rétablir la dignité, de reconstruire l'Église. Te remercions Jésus pour ce modèle dans 1 Timothée de gestion d'une situation de crise et de voir tous les effets peut-être choquants que Paul a prescrit à Timothée. Et te prions Jésus pour que dans notre Église, la dimension prophétique du masculin et du féminin puisse continuer à grandir, se manifester. Amen. Je vous remercie.